France Inter, il est 7h.
France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et nous sommes le mardi 5 novembre. Bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Agnès Soubiran, bonjour. À la une de l'actualité ce matin, le drame de la rue d'Aubagne un an après, la mort de 8 personnes dans l'effondrement de 2 immeubles à Marseille, a jeté une lumière crue sur le mal-logement en France. Les choses ont-elles changé depuis? Reportage dans le journal après les autres titres, Agnès.
Le gouvernement réfléchit de plus en plus à la clause dite du grand-père pour la réforme des retraites. Une nouvelle journée de contestation au Liban. Quel impact sur l'environnement pour le jean, le grille-pain ou la peinture que je veux acheter? Un affichage environnemental pourrait voir le jour et puis les curieuses préconisations de l'Agence mondiale antidopage.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Écoutez Nicolas, il était heureux, émouvant et un peu à l'ouest hier, quelques heures après l'annonce chez Drouan, la consécration pour un auteur déjà populaire qui construit depuis des années une œuvre délicate et originale. Jean-Paul Dubois, prix Goncourt 2019, sera notre invité à 7h50.
À tout à l'heure Léa, à 8h20, le grand entretien de la matinale avec le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, vous pouvez intervenir dès maintenant, le standard est ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter.
Ils étaient étudiants ou artistes, sans papiers ou mères de famille, français, italiens ou tunisiens, 8 habitants de la rue d'Aubagne, morts ensevelis sous les décombres de leur immeuble, vétuste et insalubre. 8 minutes de silence seront donc observées tout à l'heure à 9h05, heure exacte de l'effondrement des appartements. Toute la nuit déjà, des bougies ont éclairé le trou béant laissé par les deux bâtiments. Un drame qui a donc mis en lumière le fléau du logement insalubre à Marseille. Et depuis, rien n'a changé, estiment ces deux habitantes rencontrées par Olivier Martoc.
De savoir qu'il y a eu des morts quand même, comme j'ai connu cette rue d'Aubagne, comme je la connais maintenant. J'ai de la peine et de la rage, enfin une colère, mais que vous ne pouvez pas vous imaginer.
Ça fait un an, on a l'impression que c'était hier, parce que rien n'a changé, rien n'a bougé, rien n'a été expliqué, aucune information donnée aux habitants, puis qui sont les responsables. En tout cas, tous les élus qui étaient là, ils sont encore à leur poste.
En un an, près de 4000 personnes ont dû quitter leur logement. Dans la précipitation, 370 immeubles ont été frappés d'un arrêté de péril. Mais au-delà de la situation à Marseille, l'état de certaines copropriétés privées inquiète les pouvoirs publics qui planchaient depuis plusieurs mois sur la mise en place d'un nouveau plan de travaux obligatoires. Un plan très attendu qui ne figure finalement pas dans la réforme de copropriété qui vient d'être publiée par ordonnance. Explication signée Claire Chaudière.
Ce fameux plan pluriannuel de travaux obligatoires pour toutes les copropriétés devait s'attaquer à la racine du problème. Un dispositif contraignant pour rénover plus régulièrement le bâti, mais permettant d'anticiper et donc de lisser la facture pour les ménages. Son abandon est aujourd'hui ahurissant pour José de Giomatteo du réseau immobilier Procivis, auteur d'un rapport sur le sujet.
C'est vraiment très très dommage. Un véritable rendez-vous manqué. C'était tout simple en fait. Planifier des travaux sur la durée pour faire face à quelque chose de fondamental, la dégradation du bien. Cette dégradation qui conduit à des situations terribles comme on a pu en connaître à Marseille et ailleurs.
Alors la réforme était-elle trop sensible pour le pouvoir d'achat des propriétaires modestes ou pour le budget de l'État avec un flot de demandes de subventions à la clé? Officiellement, la mesure a été retoquée pour des raisons de constitutionnalité, insistent plusieurs acteurs proches du dossier. Mais pour Émile Agège de l'Association des responsables de copropriété, l'exécutif ne pourra pas en rester là.
C'est un échec. Pendant des années, on a fait la politique de l'autruche, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des copropriétés en difficulté qui dérivent. Les contentieux liés au recouvrement des charges explosent. Il y a bien un problème.
15% des copropriétés sont aujourd'hui considérées par les pouvoirs publics comme fragiles, avec entre autres de gros impayés de charges.
Claire Chaudière a retrouvé dans le nouveau podcast original de la rédaction de France Inter, consacré à la question de l'habitat indigne, à retrouver sur franceinter.fr.
Il est 7h04, Agnès, à un mois de la mobilisation à la SNCF et à la RATP, le gouvernement s'interroge sur la réforme des retraites.
Plus précisément sur le calendrier, pour éviter un blocage du pays, l'exécutif pourrait être tenté de faire une concession, notamment aux cheminots, en décidant de n'appliquer le nouveau mécanisme de calcul qu'aux seuls nouveaux embauchés. Une option parmi d'autres, mais une option à considérer, Maxime Debs.
Dans la machine à fabriquer la réforme, la piste est sur la table, étudiée, expertisée, reconnaît-on au sein du gouvernement. N'appliquer la réforme qu'aux nouveaux entrants à la SNCF, cette hypothèse, Jean-Paul Delevoye, missionné par l'exécutif sur cette question des retraites, l'évoquait déjà en page 25 d'un premier rapport publié en juillet. Option qui aurait l'avantage, en tout cas, de désamorcer la situation à un mois de la mobilisation du 5 décembre, où les syndicats promettent un horizon bien sombre dans les transports, à moins que Roger Dillenseguer de l'UNSA Ferroviaire.
Par le fait même de la fin du recrutement à statut au 1er janvier, le régime spécial des cheminots est un régime fermé qui va déjà mourir de sa propre mort. Alors ne pas toucher aux cheminots qui ont actuellement le statut serait de nature à nous faire réfléchir positivement aux suites à donner au 5 décembre.
Reste que le gouvernement marche sur un fil dans cette histoire. Lâcher du lest face aux cheminots, ce serait s'exposer à l'obligation de faire des concessions aux autres régimes spéciaux, comme les policiers, les agents hospitaliers, sans compter la réaction des Français soumis au régime général, à qui l'on répète qu'il faut dès maintenant plus d'équité. Bref, aucune raison de se précipiter, lâche un conseiller au sein de l'exécutif. Pour l'instant, on maintient le cap et après, on verra.
Autre sujet sensible pour le gouvernement, l'immigration. Le Premier ministre doit dévoiler demain 20 mesures. Les demandeurs d'asile devront ainsi attendre 3 mois avant de bénéficier de la protection universelle maladie. L'immigration économique légale devrait être facilitée pour les métiers en tension, dont la liste sera réactualisée régulièrement. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 8h. Les ministres de l'Intérieur, de la Justice et de la Ville attendus ce matin à Chanteloup-les-Vignes sur les lieux de l'incendie de l'école de cirque. Ils devraient aussi rencontrer les pompiers et les policiers de la ville en première ligne face à ces violences urbaines. Hier, le Premier ministre a qualifié les responsables de l'incendie de petites bandes d'imbéciles et d'irresponsables. Des mots choisis avec beaucoup de précautions, Yael Gauze.
Quand il se rend hier à Saint-Ouen pour lancer le village olympique, le Premier ministre sait qu'il n'échappera pas à une question sur les violences urbaines. Mais comment qualifier les incendiaires? Comment les dénoncer sans répéter les mêmes figures de style usées jusqu'à la corde, comme celle d'un Jean-Pierre Chevènement en 1998?
De jeunes sauvages, on brûle à la voiture de leur voisin.
Ou celle d'un Nicolas Sarkozy sur la dalle d'Argenteuil en 2005.
Vous avez un site, cette bande de racailles. On va vous en débarrasser.
Édouard Philippe opte pour la bande d'imbéciles. Inutile de braquer davantage en tombant dans l'injure. La fermeté, ça ne s'aboie pas, ça doit s'incarner dans le calme, explique l'un de ses plus proches conseillers. Trop calme pour le président du conseil départemental des Yvelines, le LR Pierre Bédier.
Il n'est pas question de céder devant la folie de quelques crétins.
De toute façon, ce ne sont pas les mots trop durs ou trop timides qui comptent, mais les résultats, insiste Matignon. Si on en est là, dit-on à Beauvau, c'est bien que l'État est de retour et qu'il dérange les trafiquants. Édouard Philippe attend beaucoup du plan anti-stup qui sera lancé l'an prochain pour faire tomber d'autres imbéciles.
Et hier soir, les deux jeunes interpellés à Chanteloup-les-Vignes ont été mis en examen et placés en détention provisoire.
Il est 7h08, les États-Unis, Agnès, viennent officiellement de quitter l'accord de Paris sur le climat.
La décision prise il y a 2 ans est désormais effective. Les États-Unis deviennent ainsi le seul pays à se désengager de ce texte signé par 197 capitales. Donald Trump dit vouloir ainsi préserver les intérêts des travailleurs américains. C'est l'un des pays qui connaît actuellement une vague de contestation contre une classe dirigeante accusée de corruption et d'incompétence. 20e jour de manifestation au Liban, malgré la démission du Premier ministre la semaine dernière. Reportage à Beyrouth du correspondant de France Inter, Aurélien Colli.
Un banc public, une voiture et 2 poubelles en travers de la route, c'est l'un des barrages réapparus hier dans la capitale libanaise, tenu par une 50aine de personnes, dont Sherbil, étudiant de 24 ans.
On veut un gouvernement indépendants, technocrates, hors politique et religion, qui peuvent rendre le Liban un meilleur état économique. Nous ne voulons plus de corruption politique au Liban, dans un état qui n'est pas acceptable.
Un état qui a la 3e dette publique au monde, qui ne fournit pas les services élémentaires, eau, électricité, et qui offre à sa jeunesse un chômage endémique, dirigé par la même classe politique depuis la fin de la guerre civile il y a 30 ans, engluée, elle, dans le confessionnalisme, la corruption et le clientélisme.
Il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer, parce qu'on est au milieu de la route.
Sur une place réoccupée de Beyrouth, Camille, 64 ans, veut maintenir la pression sur le président Michel Aoun, une semaine après que la rue ait obtenu la démission du Premier ministre Saad Hariri.
Le président, il ne bouge pas. Khalas, ça suffit. Il rentre à sa maison. Des nouveaux gens maintenant. Khalas.
Mais le retour des barrages depuis hier et la paralysie de la vie économique depuis 15 jours commencent aussi à peser. Au carrefour tenu par Cherbil, un policier s'accroche avec un automobiliste, énervé lui par cette rue à nouveau bloquée. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
Retour en France et après l'étiquetage sur la qualité nutritive des produits, peut-être bientôt un affichage sur l'impact environnemental. Le projet est actuellement en discussion dans le cadre de la loi anti-gaspillage. Le Conseil économique et social, le CESE, doit rendre son avis aujourd'hui. Mode d'emploi signé Sandy Dauphin.
Quel est le bilan carbone du produit que j'achète? Sa fabrication a-t-elle nécessité beaucoup d'eau, d'énergie, l'extraction de matières premières? Est-il recyclable? L'affichage environnemental, c'est un peu comme donner une note, explique Philippe Dutruc, rapporteur de l'avis du Conseil économique et social.
L'avis qu'on a rendu consistait à dire que il était essentiel d'avoir un affichage environnemental un peu à la méthode de Nutri-Score ou de l'efficacité énergétique, une note A, B, C, D, E, F ou une note classique, pour dire c'est bon ou c'est mauvais pour l'environnement.
Cela fait 10 ans qu'il est question de mettre en place cet affichage environnemental en France. Il vise à aider le consommateur à mieux s'y retrouver dans la forêt de promesses plus ou moins vertes sur les emballages.
On sent bien que les consommateurs commencent à se lasser des allégations environnementales qui peuvent être faites par tel ou tel producteur. C'est pas vérifiable. Petit à petit, cette pression est en train de monter. C'est pas pour rien que la majorité des grands groupes sont déjà en route sur ce système-là. Mais encore faut-il l'encadrer.
Le projet de loi anti-gaspillage examiné en ce moment au Parlement prévoit la mise en place d'un affichage environnemental. Sera-t-il obligatoire? Quels seront les produits concernés? Les modalités seront précisées par décret.
Un peu moins de 10 000 foyers restés hier soir privés d'électricité dans le sud-ouest, conséquence du passage de la tempête Amélie dimanche, et 2 départements sont ce matin toujours en vigilance orange, la Charente-Maritime et le Pas-de-Calais. Exploit obligatoire pour Lille ce soir à Valence pour espérer accéder au 8e de finale de la Ligue des Champions. De son côté, Lyon reçoit le Benfica.
Et la lutte toujours aussi difficile contre le dopage dans le sport.
La 5e conférence mondiale sur le dopage s'ouvre aujourd'hui en Pologne. Pas de révolution à attendre, il s'agit de réaffirmer certains principes fondamentaux. Plus surprenant, Fabrice Abgral, l'Agence mondiale antidopage se montre plutôt conciliante face à l'usage dit festif de certains produits.
Et parmi les sujets abordés, les drogues dites récréatives, telles que la cocaïne et le cannabis. Il est question de réduire les sanctions touchant les athlètes contrôlés positifs à ce genre de substances. Les explications de Mathieu Théoran, le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage.
La cocaïne aujourd'hui, un résultat positif ou une peine de principe de 4 ans de suspension. Avec le nouveau code, ça pourrait être réduit jusqu'à 3 mois de suspension si démontré que c'était pas un usage à des fins d'augmentation de la performance. Et même une réduction à 1 mois. Si le sportif s'engage dans un traitement contre l'addiction.
L'usage des drogues récréatives n'est pas perçu de la même manière en fonction des pays, et notamment anglo-saxons. Il y a 2 façons d'aborder le problème.
Il s'agit de faire une différence entre leur usage à des fins de dopage et celui qui a pris quelques jours avant de la cocaïne dans un cadre qui n'est pas celui du sport. Il était apparu dans beaucoup de procédures qu'il y avait une injustice à mettre sur le même plan ces 2 situations.
La France n'est pas vraiment favorable à cette réforme, c'est pourquoi
le signal envoyé doit être expliqué pour ne pas que ce soit pris comme une tolérance face à ce fléau.
Mais la France s'engagera à appliquer le nouveau règlement s'il y a consensus à l'issue de la conférence.
Conférence qui s'ouvre donc aujourd'hui à Katowice en Pologne.